Aujourd'hui, on sera devant le cas d'un film auquel on pardonne beaucoup plus facilement les défauts qu'à d'autres. Et je me félicite d'avance de passer par-dessus le personnage de Gwildor et de quand même apprécier le film. Je trouve que ça démontre une certaine maturité. Parce qu'un jour, moi aussi, j'ai été un enfant. De 1987, Les Maîtres de l'Univers. Et ça commence maintenant.
J'ai le pouvoir!
Depuis la nuit des temps, la sorcière de crâne gris maintient l'univers en harmonie.
Le film commence par un générique sur lequel on y retrouve une musique qui ressemble vachement à celle de Superman. Sans dire qu'il y a de la copie, je dirais que c'est pas loin d'en être. Sinon, à la fin de ce merveilleux générique, on se retrouve ensuite sur Eternia et on y rencontre Skeletor.
Quelqu'un semble vouloir me parler.
Oui, le masque est full 1987, OK? Et oui, les yeux trahissent un peu. Mais bon, c'était la première réalisation de Gary Goddard, OK? Et il n'avait peut-être pas compris que tu fais pas ce genre de plan-là à un gars qui porte une prosthétique. On a ensuite le droit à un message holographique, comme on n'en avait jamais vu dans d'autres films avant. Et Musclor est là à écouter parler en message holographique Skeletor. Et Musclor, comme je vous le dis, est sur sa montagne.
Une nouvelle ère commence.
Sauf que ce que Skeletor est en train de lui raconter, ben ça l'énerve. Donc, il décide d'aller fumer du Stormtrooper. Parce que Mattel avait mis une règle, OK? Il avait pas le droit de tuer des humains Musclor dans ce film-là. Donc, ils ont créé des robots. Tous ceux que vous voyez en armure noire, théoriquement, c'est des robots. On peut quand même appeler ça des Stormtroopers. Ça y ressemble énormément. Aidé par ses comparses, ils vont trouver Gwildor. Gwildor, c'est un peu l'acte de foi du film. Jar Jar Binks avant son temps.
Je suis Gwildor de Ténur, serrurier et inventeur.
Le truc avec Gwildor, OK, c'est qu'il a bâti un synthétiseur magique. Sauf qu'au lieu d'appeler ça un synthétiseur magique, il appelle ça une clé cosmique. Cette clé cosmique-là, ben, ça te permet de voyager à travers les dimensions. C'est fort.
Les sons qui en sortent peuvent ouvrir un passage n'importe où.
Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est hyper important d'avoir une clé qui te permet de voyager à travers les dimensions et dans l'espace-temps. C'est donc pour ça que les forces de Skeletor se pointent chez Gwildor.
Je n'aime pas les aventures.
On n'a pas vraiment de temps à perdre dans ce film-là, donc par la magie du scénario qui nous amène où on doit être, Musclor et ses copains se pointent au palais de Skeletor. Ils n'ont pas utilisé la clé pour se rendre là. Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Eh bien, leur objectif est de sauver la sorcière.
Sorcière, on va te délivrer.
Skeletor m'a emprisonné à l'intérieur de ce champ d'énergie.
Et bien sûr, c'est un piège. Eh ben oui, Evelyn, ou Malicia en VF, se pointe avec Skeletor. Question de mettre une embuscade devant Musclor.
Il est vrai que tout arrive à qui sait attendre.
Et là, Evelyn, ou Malicia, va se rendre compte que Gwildor a lui aussi une clé. Elle croyait qu'il y avait juste Skeletor qui avait cette clé-là. Non, non. Gwildor, il y en a une deuxième.
Le serrurier est avec eux. Cette petite vermine a une autre clé!
Gwildor panique. Eh ben oui, il panique. Et là, et boum, une porte dimensionnelle s'ouvre. Tout le monde se pousse. Il se pousse où? Eh ben, il se pousse en 1987, sur notre dimension. Et là, on va apprendre la motivation de Skeletor. Et elle est très simple. Skeletor n'est pas un vilain complexe.
Je dois tout posséder ou je ne possède rien.
Gwildor n'est clairement pas un personnage qui a super bien vieilli, OK? C'est vraiment du Jar Jar, quoi. Est-ce que c'est Gwildor qui a inspiré George Lucas? Peut-être. Est-ce que Gwildor est dans le film pour s'adresser à un public très enfantin? Je pense que oui. Est-ce que Gwildor a super bien vieilli comme personnage 40 ans plus tard? Je pense que non. On rencontre ensuite Julie. Et vous allez vous rendre compte que Julie a une vie extrêmement compliquée, OK? En plus, elle est interprétée par Courtney Cox, qui deviendra Monica.
La meilleure chose pour moi en ce moment, c'est de m'en aller à 5000 km de Kevin, de la maison.
Et là, on va apprendre que Julie doit quitter la ville. Pourquoi est-ce qu'elle doit quitter la ville? Parce que ses parents sont morts. Qu'est-ce qu'elle doit faire avant de quitter la ville? Eh bien, c'est de laisser son copain Kevin. Julie est en période de transition, là. Et les parents Julie, eux, sont morts dans un accident d'avion. Parce qu'en 87, OK, on n'avait pas peur dans des films pour enfants de mettre des drames familiales comme ça, quoi. Une orpheline, pouf, tes parents sont morts, t'as 17 ans, bonne chance. Non, non, mais ça apporte tout de suite une certaine légèreté au film.
Ils ont eu un accident d'avion. Ce sont des choses qui arrivent.
Revenons maintenant à Mouche-Claire et sa bande de copains fous. Et ils sont en train de bouffer du poulet et des côtelettes. Et ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse pourquoi? Parce que Gwildor décide de bouffer de la côtelette et de bouffer de la sauce et de bouffer du poulet. Sauf que Gwildor, il porte un costume. Donc, on regarde un mec dans un costume se remplir le costume de trucs dégueulasses, quoi. Et tu te dis pendant 2 secondes, oui, parce qu'ils ont sûrement dû faire plus qu'une prise de cette scène-là. Donc, le pauvre petit Billy Barty qui était dans le costume, ben lui, il est en train de se vider de la sauce sur la gueule. Tout le monde aime les côtelettes. Mais pas comme ça. Sinon, Julie et Kevin décident d'aller visiter les parents de Julie au cimetière. Et pendant qu'ils sont au cimetière, eh bien, ils vont trouver la clé cosmique de Gwildor.
Julie, fais attention!
Mais Kevin, regarde ce truc!
Si jamais vous vous posiez la question, Kevin est musicien. Oui, c'est important pour tout le film, ça. Je vous le dis tout de suite, le mec est musicien, OK? Et comme tout bon adolescent de son époque, Kevin décide de jouer au con avec des trucs qu'il comprend pas sans connaître les conséquences.
Ouah! Tu entends ça? Ouah, c'est géant!
Il joue avec la clé. Et ça, ça va démarrer un engrenage qu'il ne pourra point arrêter.
Nous enverrons un groupe en éclaireurs. Rassemble les mercenaires.
À cause que Kevin a joué avec la clé, Skeletor sait maintenant ils sont où, parce que sa clé à lui, lui a dit. OK? Et là, il va engager des mercenaires, ben un commando, pour aller rechercher la deuxième clé et ramener Mouche-Claire. Blade, Serog, l'homme animal, Karg sont envoyés en mission. C'est eux, les hommes de la situation.
Un curieux quatuor.
Et quand ils arrivent sur Terre, ben ils arrivent à l'école de Julie. Où il y a Kevin et Julie. Sauf que Kevin est parti, fait qu'il reste juste Julie, OK? Kevin est parti au magasin de musique. Il reste juste Julie, OK? Puis là, Julie, elle, elle a le droit à un festival de pui, pui, piou, 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 pui, pui. Par chance pour Julie, qui est pourchassée par le commando de la mort, Mouche-Claire se pointe à sa rescousse.
Ils ont blessé Karl.
Je m'occupe de...
Et on a le droit à quelques bonnes bastons, dont celle entre Mouche-Claire et Blade. C'est OK. Les comparses de Mouche-Claire vont se pointer et ils vont réussir à repousser le commando. Oui. Le commando vont tellement avoir peur de la puissance de Mouche-Claire qu'ils vont décider de s'en aller. Kevin, lui, est allé au magasin de musique, comme je vous disais plus tôt, puis là, il a montré la clé cosmique à son pote. Et là, encore une fois, on fait face à des gens qui jouent avec des trucs qu'ils connaissent pas. Julie, elle, commence à discuter avec Mouche-Claire. T'es qui? Tu fais quoi? Tu viens d'où? Mouche-Claire lui dit, je cherche une clé cosmique. T'en aurais pas vu une? Julie lui dit, oui, c'est mon copain qui l'a.
C'est grand comme ça, avec plein de lumière.
Attendez une minute, j'ai vu ce truc.
Et là, Kevin, qui a entendu dire qu'il y avait eu du grabuge à l'école, se pointe là-bas, tombe sur la police et se fait arrêter. Logique.
Mais arrêtez, hein, je sais rien du tout, moi, rien du tout.
Malicia, elle, débarque sur Terre en force. Ouais. Très subtil. Et n'oubliez pas que Malicia a en sa possession une technologie incroyable qui lui permet de voir dans le passé.
Je me vois comme esclave.
Et une troisième personne va jouer au con avec des trucs qu'il comprend pas, et c'est le flic que vous reconnaissez peut-être en tant que proviseur Strickland dans Retour vers le futur. Evelyn, non seulement est-ce qu'elle a une machine qui te permet de voir dans le passé, mais en plus, elle peut faire sauter des micro-ondes à distance.
Tout de suite.
Question comme ça. Même en 87, là, est-ce que tu pouvais te promener en vaisseau spatial en pleine banlieue sans que personne s'en rende compte? Je sais pas. Maintenant, c'est le flic qui s'est poussé au commissariat avec la clé et Kevin se retrouve tout seul, face à face, avec Malicia. Et Malicia, elle a encore plus de technologie parce qu'elle a emmené avec elle un collier magique qu'elle va mettre autour du cou de Kevin et Kevin n'aura pas le choix de lui dire la vérité.
Tu vas répondre à mes questions.
Encore une fois, j'en profite pour saluer la subtilité de Malicia et de ses troupes en pleine banlieue. Non, mais il n'y en a pas de problème. Musclor et sa bande de joviales soldats retrouveront enfin Kevin. Non.
Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez pourquoi on lui a mis ça? Ah.
Et c'est à ce moment-là du film qu'on va comprendre pourquoi Courtney Cox a eu une carrière phénoménale. Regardez le talent de l'actrice.
Écoute, Kevin, je t'expliquerai tout en route, mais pour l'instant, nous devons les aider à trouver la clé.
Donc, comme ils sont toujours à la recherche de la clé cosmique, ils vont se pointer au magasin de musique où le proviseur Strickland est en train de parler avec le glandu que lui aussi gossait avec ça plus tôt, OK?
Qu'est-ce que vous dites de ça? La montagne qui vient à Mahomet?
Evelyn et ses troupes, toujours hyper profil bas, se pointent au magasin de musique et on a le droit à une autre séance de « Poui-poui, tout-tout-tout, poui-poui » en pleine rue. Julie, elle, commence à halluciner qu'elle voit sa mère au loin. On sait tous que c'est un piège, sauf Julie. Elle n'a pas lu le scénario, elle.
Cette chose en métal brillant, avec ses lumières qui clignotent, va la chercher pour...
Donc, Julie va aller voler la clé à Gwildor, OK? Elle va la ramener à sa mère, sauf que c'est pas sa mère, c'est Malicia. Musclor et son mulet partent donc à la poursuite de la clé. Pendant ce temps-là, OK, il y a une gigantesque porte dimensionnelle qui s'ouvre en plein dans la rue principale et Skeletor se pointe. Skeletor, toujours à la recherche de Musclor, bien sûr, lui envoie ses centurions volants au cul. Et là, Musclor va réussir à coucher un des centurions et prendre son bolide qui vole. Un grand, grand, grand moment de cinéma. Il va reprendre la clé à Malicia et on a le droit encore à Musclor dans une scène à la tension juste exceptionnelle qui vole sur le petit surf mobile des centurions. Tout le monde s'en souvient de ça. Et pendant que Musclor joue au débile sur le petit puit, eh ben, Skeletor, lui, nous démontre toute sa puissance. Par chance, OK, pour sauver la vie de ses amis, Musclor se pointe. Et là, Musclor, il commence à donner de la tatane à gauche, de la tatane à droite. OK, qui veut de la tatane? Musclor a de la tatane à donner.
Reste où tu es, Musclor!
Sauf que, il peut pas donner de la tatane de manière infinie. Donc, à un moment donné, il a comme pas le choix de se laisser prendre prisonnier. Parce que Skeletor lui dit, si tu te laisses pas prendre prisonnier, je vais tuer tous tes amis. Musclor, il y a un cœur.
Non, Musclor!
Et quand Musclor va partir avec Skeletor, on va se rendre compte, sur un banc de parc, que Julie est vachement mal en point. Elle a une genre de gonorrhée grimpante qui risque de la tuer. Ça devrait être vachement compliqué de se rendre sur Eternia pour Julie, pour qu'elle soit sauvée par la sorcière. Sauf que, OK, même si la clé cosmique que Gwildor a été détruite, on a oublié un fait important. Kevin est musicien et il a l'oreille absolue. Et lui, il se souvient de la mélodie qu'il faut jouer pour retourner sur Eternia. Ça, c'est la puissance de Kevin. D'ailleurs, sur Eternia, on se rend compte que la sorcière du début, la sorcière blanche, eh bien, elle est vachement mochée. Hein? Pas facile. Skeletor, lui, pendant ce temps-là, il est bien sûr dans ses fantasmes de puissance, OK? Et il va même aller jusqu'à fouetter Musclor. Skeletor, en toute puissance, annonce son ascension à tout le monde via un message holographique.
Je suis maintenant maître de l'univers.
Et comme il le dit, il le sent bien, le pouvoir le pénétrer.
Le pouvoir me pénètre, oui.
Son ascension se termine et on le change de costume. Le premier costume était beaucoup mieux, selon moi, et là, il change de costume. C'est moins bien. Et là, Gwildor réussit à faire fonctionner la clé avec l'aide de Kevin, bien sûr, et il se pointe au palais de Skeletor. Et là, tout d'un coup, Skeletor décide qu'il se la joue empereur Palpatine, quoi. Puis il commence à lancer des éclairs de ses doigts. Et avec tout ce brouhaha-là, on a bien sûr le droit à un autre festival de pui, pui, pui. Il y en a partout, il y en a pour tous les goûts. Musclor qui s'énerve, qui fait tomber des statues à la force de ses bras, qui nique tous les petits Stormtroopers sur son chemin, finit par se rendre jusqu'à son épée, à la choper et à nous donner ce qu'on attendait depuis le début du film. Et là, Musclor et Skeletor vont se téléporter dans une pièce sombre afin d'avoir un duel final. Parce qu'il n'y avait plus de budget pour tourner la dernière scène. Il n'y avait plus de budget pour engager du personnel. Donc, ils ont dû faire ça ailleurs. Et ils ont dû faire ça sans éclairage. Musclor va lui montrer c'est quoi un homme, OK? Puis, Skeletor va descendre d'une coche, là. Et on aura le droit à une scène classique des années 80. Le méchant, le vilain, qui tombe de haut. Quoi. Ah! Tout le monde, il est sauvé. Tout le monde, il est beau. L'espoir renaît sur Eternia.
Victoire!
Victoire!
Même les parents de Julie reviennent à la vie. Ça, c'est la magie de la clé cosmique, OK? Ses parents sont de retour. Et c'est pas des zombies.
Maman! Papa!
Quelle bien matinale, dis donc!
Et c'est la fin des maîtres de l'univers.
J'ai le pouvoir!
Déjà, moi, j'ai une certaine affection pour ce film-là. Même si j'étais plus G.I. Joe que Musclor quand j'étais jeune, et que les films G.I. Joe me font souvent oublier et vivre des traumatismes d'enfance. Mais bon, ça, c'est un débat pour une autre vidéo, j'imagine. Ce film-là, il y a deux manières de le voir, selon moi. Il y a la VF et t'as la VO. En VO, c'est pas le même film du tout. Déjà en VO, Dolph Lundgren savait pas encore très bien parler anglais à l'époque. Donc, parfois, il est très dur à comprendre et il parle avec un accent qui était pire que celui de Schwarzenegger à la même époque. Ensuite, Skeletor, eh ben, quand il parle, vous vous souvenez de Bane dans The Dark Knight? Ben, dans la VO de ce film-là, quand Skeletor il parle, c'est comme ça.
On l'entend parler comme ça parce qu'il y avait un masque dans le visage, comprenez-vous?
C'est certaines des choses qui font que peut-être les anglophones considèrent ce film-là comme un gros, énorme, gigantesque nanar, parce que la réalité, c'est que la Canon n'avait plus d'argent pour faire de la post-production sur le film et doubler Musclor et doublé Skeletor. Donc, ce qui a été enregistré sur place, c'est avec ça qu'ils ont fait le film. Ensuite, ce film-là a connu plein de problèmes de pognon dans le tournage. Ils devaient donner de l'argent à Mattel pour les droits du film, puis en fin de compte, Canon n'a pas été capable de les payer. Et là, Mattel leur a dit, garde, donnez-nous pas l'argent, gardez l'argent pour faire le film pour vous assurer que ça soit pas une grosse bouse. Et quand vous regardez la VF, ces problèmes-là existent pas ou très peu, parce que il y a eu du doublage par-dessus. Donc, la voix de Skeletor est correcte et la voix de Musclor est correcte aussi. Ça change beaucoup de choses dans l'expérience. Tu sais, des fois, on dit une VF peut sauver un film. Je pense que dans le cas des Maîtres de l'Univers, la VF a sauvé le film. Après, moi, je sais que 80% de mon opinion sur ce film-là demeure de la nostalgie. C'est un film que j'ai vu quand j'avais 9-10 ans. C'est un film qui a marqué mon enfance, que j'ai vu des dizaines, des vingtaines, des trentaines de fois peut-être dans ma vie. Donc, c'est dur pour moi de vous dire que c'est un gros nanar ou une grosse bouse. C'est nanardesque. C'est beaucoup de choses copiées sur Superman, beaucoup de choses copiées sur Star Wars. Puis ça, c'est des trucs que je me rends compte à l'âge où j'ai ou quand je le regarde comme il faut. Mais quand j'étais gamin, j'avais pas cette vision-là de ce film-là. La nostalgie, c'est important des fois. Parce que ça nous fait pas oublier qu'on a déjà été gamin. Et ce film-là, il m'a apporté beaucoup de plaisir quand j'étais gamin. Est-ce qu'il m'en apporte autant aujourd'hui? Non, parce que j'ai tendance à voir certains de ses défauts que je ne voyais pas à l'époque. Et je l'ai revu en VO pour faire la vidéo. Et effectivement, la VO est 10 fois plus nanardesque que la VF. Ensuite, pour ceux qui ne le savent pas, cette semaine devait sortir le film Les Maîtres de l'Univers, la version 2026, un remake, un reboot, un ce que vous voulez. Et il ne sortira pas en France. Et s'il ne sort pas en France, ça veut dire qu'il ne sortira pas en Romandie non plus. Il va sortir sur Amazon. Et je veux juste souligner un truc à Combini, OK? Les fans de Musclor ne sont pas des boomers. Et déjà, à titre de référence pour le futur, à la personne qui a écrit cet article-là, Les boomers sont nés entre 1945 et 1965. Baby boom, d'après-guerre, Deuxième Guerre mondiale, c'est terminé en 1945. La génération qui aime Musclor, parce que les baby boomers en 87 avaient 30 ans, OK? C'est pas les baby boomers, c'est la génération X qui, elles, sont nées à peu près de 65 à 80. Donc, si tu veux rire d'une génération qui est fâchée parce que ce film-là sortira pas au cinéma, ris de la bonne génération, s'il vous plaît. Et moi, je vous pose la question, s'il y a des salles de cinéma qui ont présenté Papa Mobile et Le Grand Déplacement, voulez-vous m'expliquer pourquoi il n'y a pas de salles de cinéma en France et en Suisse romande qui vont présenter Les Maîtres de l'Univers? Sûrement parce que Amazon veut juste l'avoir en exclusivité sur sa plateforme. Sinon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est le genre de film que j'ai du plaisir à faire, parce que des fois, je fais des films un peu plus compliqués. Faire un film que j'ai aimé, pour lequel j'ai une belle relation et qu'aujourd'hui, je peux rire des conneries qui me faisaient rire quand j'avais 9-10 ans. Je trouve ça génial. Ben, j'espère que ça a été la même chose pour vous. Si vous voulez supporter la chaîne, vous pouvez bien sûr vous abonner à Patreon à partir de 3 euros par mois. Vous aurez des vidéos sans pub, sans censure et surtout des vidéos exclusives. Sinon, ça coûte rien de vous abonner à YouTube juste ici et ça fait du bien. En attendant, on se revoit bien sûr la prochaine fois.